Bonjour. Alors, je m'appelle Harmonie et je vais vous parler donc d'accessibilité et d'un point sur les obligations légales dans le secteur public. Et on va voir que ça touche beaucoup plus largement un peu tous les secteurs. Donc au programme, quelles sont les obligations légales en matière d'accessibilité numérique? Étonnamment, le titre de la conf, en général, je trouve pas ça hyper passionnant et c'est un sujet qui intéresse beaucoup, donc d'aborder ce sujet par l'angle légal. Donc j'ai pas fait de proposition en fait de conférence. J'ai dit de quoi vous voulez que je parle et on m'a parlé de ce sujet. Et la dernière fois, rencontre mondiale, c'est un sujet qui avait intéressé aussi. On va voir très rapidement, parce que normalement c'est une conf que j'avais donnée sur 40 minutes, donc là on fait en moitié moins de temps. Les normes et les référentiels existants. On va voir qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Il y a de nouvelles normes qui sortent en décembre. Et concrètement, je pense que je vais essayer de passer assez vite là-dessus. Et concrètement, comment on fait? Donc, c'est la partie qui nous intéresse le plus, je pense aussi. C'est comment chacun d'entre nous peut améliorer l'accessibilité. Et avant ça, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Donc, accessibilité numérique, ça signifie que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser l'informatique. Toute autre définition n'est pas réelle. Donc si on vous dit c'est aussi pour le multilinguisme ou c'est pour tout le monde, oui ça concerne tout le monde puisque tout le monde peut être en situation de handicap, mais ça concerne particulièrement ces situations-là. Et c'est ce qui définit et c'est ce qui différencie l'accessibilité d'autres choses. Quand on a un problème, si on me dit oui, si c'est pas assez contrasté, je vois pas bien quand je suis en mobilité au soleil, c'est vrai. Donc, par exemple, si vous allez sur un smartphone, un site qui est pas assez contrasté, vous êtes au soleil, vous voyez pas, mais bon, vous n'avez qu'à vous décaler, vous mettre à l'ombre. Si vous voyez pas, vous voyez pas. Et c'est un point de droit vraiment important, fondamental. Certes, ça bénéficie à beaucoup plus de monde. Il y a une deuxième conférence, je donne dans une heure, avec Framasoft, Emeric de Framasoft, sur le sujet. Donc, vous allez voir que vraiment, ça bénéficie à beaucoup plus de monde. Il n'empêche que c'est pour ça qu'on parle aussi de l'angle légal, parce que là, c'est une question de droit, de discrimination, de droits fondamentaux. La définition du handicap, c'est une limitation d'activité entraînant un désavantage. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux et ce n'est pas juste ça, parce qu'on peut ne pas pouvoir faire autre chose et ce n'est pas très grave. Si vous avez des lunettes, vous avez une déficience visuelle et vous ne pourrez pas être un pilote de chasse, par exemple, dans l'armée, parce qu'il faut avoir une vue parfaite, mais vous n'avez pas des avantages, ce n'est peut-être pas votre problème. Donc, ce n'est pas grave. Si par contre, vous étiez pilote de chasse et tout à coup, vous devez porter des lunettes, là, vous pouvez être considéré comme en situation de handicap, c'était votre métier et tout à coup, vous ne pouvez plus. De même, si vous êtes informaticien, vous êtes allergique à la farine, c'est pas un problème pour votre travail. Par contre, si vous êtes boulanger et que vous devenez allergique à la farine, là, vous pouvez être déclaré en situation de handicap parce que ça a un impact dans votre vie. Et c'est une limitation d'activité durable ou temporaire. Tout le monde peut être concerné. Si demain, vous foulez le poignet et vous ne pouvez pas utiliser... votre souris, il faudra bien que ça marche au clavier aussi, tout ce que vous faites. Alors, la définition du logiciel libre, telle qu'elle est définie par Richard Stallman, donc je ne parle pas d'open source, mais bien de logiciel libre, définit quatre libertés. La liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter le logiciel. La liberté une, c'est la liberté d'étudier et d'adapter à ses besoins. La liberté 2, c'est de redistribuer des copies. Et la liberté 3, c'est modifier et partager ces modifications. Donc je vous apprends, ceux qui connaissent bien, je vous apprends rien, les autres peut-être vous réviser. Mais du coup, c'est important de penser la liberté 0, c'est la liberté d'exécuter le programme. Et si le programme n'est pas accessible, que vous êtes en situation de handicap, est-ce que vous êtes libre de l'exécuter du coup? Vous ne pouvez pas en tout cas. Vous êtes libre théoriquement, mais en pratique, vous ne pouvez pas. Donc, on voit que, là, on va voir le contexte juridique et normatif, on va voir que l'accessibilité, autant il n'y a pas... c'est une question de liberté, vraiment. Donc, si on voit une vue générale des textes en vigueur, ça vient au départ, c'est un élan vraiment mondial, qui vient de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, l'article 9. Vous avez une déclinaison en Europe. Vous avez les références, Digital Agenda for Europe, Action 64, etc. Donc il y a même en ce moment même un European Accessibility Act qui est en train d'être débattu au Parlement européen. Et en France, vous avez une loi handicap, la loi du 11 février 2005, la loi 2005-102, qui contient plein de choses. Et l'article 47 concerne vraiment spécifiquement les services de communication publique en ligne, des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées selon les normes internationales. En gros, je résume. Donc là, c'est une obligation qui est... Voilà, depuis 2005, il y a eu un décret en 2009, le 14 mai 2009, un arrêté, et la situation, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est accessible, donc on voit que c'est très efficace pour l'instant. Donc les contenus, ce que dit la loi, c'est que les contenus doivent être accessibles aux personnes handicapées. Tous les contenus numériques mis à disposition sont concernés, y compris les documents en téléchargement, donc PDF, vidéos, documents bureautiques, etc. Il y a une consécration des règles internationales en tant que référence. Donc ils appellent ça, c'est pas le vrai terme, c'est les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'Internet. Donc ils parlent plutôt d'Internet parce qu'en fait c'est le seul endroit où il y a une codification réelle des normes en tant que normes d'accessibilité. C'est le W3C qui est le consortium international qui fait le HTML, etc., qui a dicté des normes pour comment on fait un contenu accessible, pour vérifier. Et donc c'est applicable aussi, on va le voir, au niveau bureautique. Je serais curieuse, pour être plus pertinente, de savoir un peu qui est le public. Vous êtes plutôt... Est-ce qu'il y a des développeurs ? Ouais. Et les autres, vous êtes du secteur public peut-être, ou... Ouais, plusieurs du secteur public, d'accord. Et les autres, vous faites quoi ? Vous êtes dans des communautés, c'est par intérêt comme ça, personnel ? D'accord. Réseau système, vous êtes moins concerné du coup. Enfin, au niveau impact... Oui, non, mais ça peut être intéressant, mais j'ai moins de règles pour vous. Alors, il y a une ambiguïté, je vais passer très vite. Il y a un problème qui lie... Donc là, on va voir, en fait, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est le lien entre accessibilité et logiciel libre. Il y a un lien organique avec... Enfin, que certaines personnes... ne reconnaissent pas forcément. Il y a un certain Richard avec qui on a un peu discuté l'été dernier et je crois qu'on n'est pas trop d'accord sur les définitions. Mais donc l'accessibilité, on voit que c'est vraiment la liberté de pouvoir, comme les autres, à égalité avec les autres, travailler, communiquer et faire les mêmes choses. Et donc il y a quand même une question de liberté, parce que quand on a un handicap, c'est pas un choix. On peut pas choisir de voir, on peut pas choisir de tout à coup de marcher si on peut pas marcher, on peut pas choisir de changer sa situation. Et l'évolution de la loi et de la législation dans le monde, c'est aussi avant on considérait que le problème c'était la personne qui a une déficience et comment on gère ces personnes qui sont un problème pour la société. Aujourd'hui c'est le contraire. Le problème c'est la société qui est pas accessible. Une personne qui a une déficience et qui est dans un milieu qui est accessible, il n'est pas handicapé. C'est important de comprendre ça. Si votre environnement de travail, si le site web, si tout ça c'est accessible, la personne n'est pas handicapée. Donc le travail, c'est pas à la personne de le faire. Il faut qu'elle sache s'utiliser. Après, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est un super utilisateur. Donc tout le monde a sa part, il faut savoir utiliser ses outils, certes. Mais il y a un travail aussi de la part des développeurs. Et des concepteurs, c'est pas que les développeurs, et des donneurs d'ordre, hein, parce que c'est toute la chaîne en fait qui est concernée, de prendre en compte ça et de faire en sorte que ce soit accessible. Alors, un site web accessible est-il discriminant ? Donc si on s'en tient donc justement à la définition de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il y a une discrimination fondée sur le handicap, c'est toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour but ou objet, de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits fondamentaux, et de toutes les libertés fondamentales. Donc on voit qu'il y a quand même liberté, donc c'est écrit dans les textes, dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, civils ou autres. Et ce qui est important à retenir, c'est que contrairement à une autre discrimination, il suffit de ne pas leur interdire de faire. Là, il y a une obligation d'aménagement raisonnable, puisqu'on voit que la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. Donc c'est une démarche qui est différente. C'est construire une société inclusive pour tout le monde. Et c'est la responsabilité de tout le monde. Dans quel monde voulons-nous vivre ? Est-ce que nous voulons une société juste pour certaines catégories ou est-ce que c'est pour tout le monde ? Et en plus, c'est d'autant plus... avec le vieillissement, on construit cette société pour notre futur nous-mêmes. puisqu'on aura tous éventuellement des déficiences et est-ce qu'on a envie d'être exclu parce que plus tard... Donc c'est très difficile parce qu'on est dans un monde en plus avec Internet, ça va encore plus vite et on pense beaucoup l'immédiateté. C'est pour ça que c'est une question politique et c'est une question qui doit être prise en compte au niveau de la loi. C'est aussi ce qui fait qu'il y a une loi pour plusieurs, pour l'accessibilité. Et donc cette obligation d'aménagement raisonnable... Du coup, est-ce qu'il y a un droit à l'accessibilité protégé par le code pénal ? Donc là, l'article 225-2 du code pénal définit la discrimination. Comme je le disais, il y a une obligation pour le secteur public, mais sur le secteur pénal, la loi antidiscrimination, elle touche tout le monde. Et elle dit la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste... Donc, dans les définis, il y a écrit la discrimination définie à l'article 225-1, donc il y a aussi envers les personnes handicapées. Donc, je vous le dis, il y a toute une liste religieuse, etc., mais aussi personnes handicapées. Et ça consiste notamment à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service. Et les peines sont portées, dans ce cas-là, quand c'est dans un accès public, à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on... Donc ça, c'est voilà, la loi antidiscrimination, qui est une vieille loi, donc ça ne parle pas de numérique. La question aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence actuellement en France, il y en a dans d'autres pays, et il y a eu des sanctions sur ce même fondement, qui consiste à dire c'est une discrimination. La discrimination fondée sur handicap, c'est aussi le refus d'aménagement raisonnable. Et quand elle est dans un lieu public, est-ce qu'un site internet est un lieu public ? Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de jurisprudence, donc il faudrait voir. Mais je pense que c'est ce qui a été conclu dans d'autres pays. Dans ce cas, les peines sont y compris pour le secteur privé. Oui ? 5 minutes ? D'accord. Je continue un peu quand même. Et d'accord, c'est déjà fini. Alors, je finis juste sur... je vous passe très rapidement. De toute façon, vous aurez le diaporama. La galaxie accessibilité au W3C, donc il y a notamment ce qui fait l'objet de normes en France. Vous avez le standard défini les normes internationales pour l'accessibilité de l'Internet. En fait, c'est les WCAG, WCAG. Donc, c'est Web Content Accessibility Guidelines, donc les règles d'accessibilité pour les contenus web. En France... donc il y a 4 principes, 12 règles, etc. Et en France, vous avez le référentiel général d'accessibilité pour les administrations qui est en cours de refonte. Vous avez le RG2A3 bêta qui était en appel à commentaires publics jusqu'au 31 octobre, ça vient d'être fini. Donc moi, je suis expert en accessibilité, j'ai une petite société et j'ai gagné un marché. Donc je refonds les normes en fait pour la DISIC, donc la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication. Et donc on est en train d'impacter en fait tous les commentaires qu'on a reçus, plus de 200 commentaires, de les impacter dans le référentiel pour faire la version finale qui verra le jour donc en décembre. Et où on introduit dans le guide d'accompagnement cette obligation d'aménagement raisonnable, donc où on réimpacte, et il y a une vraie volonté de faire bouger les choses. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en pratique. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir sur le stand. Et au-delà de l'obligation légale, je vais quand même conclure par ça, c'est un devoir civique, puisque le secteur public, il y a quand même une mission d'intérêt général. Et que si on reprend la définition de Richard Stallman, c'est pas que 4 libertés, il l'ouvre souvent en conférence, c'est liberté, égalité, fraternité, le logiciel libre, et je vois pas comment on peut faire si on exclut certaines personnes pour que ce soit réel. Donc il faut forcément que le logiciel libre soit accessible à tout le monde. Et donc on a un stand, c'est une association Liberté Zéro au rez-de-chaussée, près de la porte, si vous voulez passer voir. Il y a plusieurs, je sais pas si Jean-Philippe est là, mais il a un lecteur d'écran avec une plage braille, donc il peut vous montrer. Si vous voulez voir, toucher, comment ça marche, n'hésitez pas aussi. Voilà, si vous avez des questions. Oui ?
Merci. Alors, je vais essayer de formaliser. Je voudrais savoir aujourd'hui où en est la reconnaissance du Wayaria, notamment pour le RG2A. Aujourd'hui, c'est une norme qui n'est pas reconnue en France et qui est encore plus presque incompatible avec les RG2A actuels.
Alors, Wayaria, donc c'est le Web Rich Accessible. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est pas une norme, c'est une API maintenant de HTML5. donc une version de HTML moderne et donc qui est construite autour d'API. Et donc il y a une API qui s'appelle WayAria. Aria, ça veut dire Accessible Rich Internet Application. Donc c'est pour faire des applications Internet en JavaScript accessibles. Et c'était un gros problème du RG2A2, c'est pour ça qu'on l'a mis à jour, où en fait, donc sous la version 2, qui est celle actuelle, mais qui est bientôt finie, on imposait une alternative à JavaScript, ce qui aujourd'hui n'est juste pas possible. Enfin, c'est pas faisable, puisque... et ça n'a surtout pas de sens, parce qu'on peut faire de l'accessibilité en JavaScript. Donc le nouveau RG2A tient compte de ça, donc on n'impose plus une alternative à JavaScript. En plus, WayAria, c'est intégré depuis très longtemps. En revanche, on impose à ce que ces composants soient accessibles. Donc il faut les tester, évidemment. Et si on veut faire une alternative parce qu'on ne peut pas le rendre accessible, c'est possible. Mais par contre, il ne faut pas demander à l'utilisateur de désactiver JavaScript. Il faut que cette alternative soit activable directement dans la page par l'utilisateur, voilà, par un lien, par un bouton, quelque chose. Donc maintenant, on considère ce qui est vrai, c'est que de toute façon, les gens ne désactivent pas JavaScript à part pour tester, donc c'est souvent nous plutôt qui le faisons. Les vrais utilisateurs ne le font pas, il n'y a pas de problème avec les lecteurs d'écran à condition de le faire de manière accessible. Et donc évidemment, le nouveau référentiel intègre WayAria. Allez voir hein, vraiment le RG2A3 bêta, vous l'avez en ligne, il va évoluer forcément, il y a eu des commentaires, mais globalement, vous avez la base déjà, donc vous pouvez aller voir.
Du coup, par rapport au RG2A3, donc il est censé sortir en fin d'année, et est-ce qu'il y a une date de rentrée en vigueur
légale ? Ce qu'on a proposé, c'est qu'il sera en vigueur, évidemment. Donc l'arrêté, en fait, lui, il est quasiment prêt. Là, on est en train de finir les derniers. On a ouvert pour chaque commentaire, voilà comment on a travaillé. On a ouvert une issue sur un dépôt privé sur GitHub. Je ne sais pas si on aura le droit de le rendre public, mais bon, en tout cas, voilà. Et donc là, il reste, je crois, 30 issues à fermer. Donc on a quasiment fini, donc le truc est prêt. Hein. Donc la semaine prochaine, il part dans les circuits officiels. Je ne sais pas encore si on aura le droit de faire une version RC, donc non officielle, qu'on pourrait mettre tout de suite en ligne, parce que de toute façon, après, c'est plus des délais légaux. Et donc, il sera en vigueur en décembre, quand il y a l'arrêté ministériel qui va sortir. Et ce qu'on a proposé, c'est qu'il y ait un délai de 18 mois. Pour ceux qui seraient déjà en version 2.2, il faut qu'ils passent en 3, mais ils ont 18 mois pour le faire. Mais si vous n'êtes de toute façon pas accessible, ce qui est le cas d'à peu près 97% des sites, autant faire directement du 3. D'autres questions ? Vous avez le droit de poser des questions techniques ou non techniques ?
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à aller...
Une dernière question.
Voilà.
Oui, bonjour. Je voulais savoir sur les données publiques, enfin, c'est au niveau du service public, quel pourcentage finalement de respect de cette volonté de rendre l'accessibilité, si on a ces pourcentages. Enfin, voilà.
Alors, il y a une étude de l'association Brainet qui est parue en mai de cette année, 2014, sur un échantillon assez restreint quand même de sites qui ne visait pas à mesurer l'accessibilité de l'échantillon, donc c'est que des sites publics. Mais qui visait à mesurer s'ils avaient bien fait une démarche, c'est-à-dire en publiant une déclaration de conformité. Sans compter qu'il y a beaucoup de déclarations de conformité qui, en fait, ne sont pas réelles et que le site n'est pas conforme quand même. Mais est-ce qu'au moins, ils savent qu'il y a un truc qui existe ? Parce qu'un des principaux problèmes aujourd'hui, c'est que plein de gens ne savent même pas ce que c'est que l'accessibilité, qu'ils sont censés le prendre en compte. Donc, ils copient-collent souvent dans les cahiers des charges des mentions, mais sans vraiment les regarder, les respecter. Donc, voilà. Et ça a révélé que 4% des sites avaient publié une déclaration de conformité. Voilà. Comment dire ? Il y a du travail. J'avais fait aux Rencontres mondiales une conférence aussi pour dire entreprise, formez-vous, parce que ça va... il y a potentiellement un marché énorme si les gens se réveillent et pas de gens assez formés. Donc, et tout le monde, côté prestataire, c'est pour ça que côté privé, si vous travaillez avec le public, et c'est un gros secteur, vous êtes aussi concerné, puisqu'il faut que, vous fassiez des choses conformes à la loi, bien sûr.
Oui, des fois, il y a des descriptions qui sont conformes à la loi, mais qui sont vides. Souvent.
C'est pas conforme à la loi, dans ce cas.
Oui, donc, tout à fait, mais...
Donc, oui, non, mais oui.
On s'aperçoit qu'il y a juste un blasphémier pour dire Donc, j'ai respecté.
Oui, mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est pas pris en compte correctement. Je pense qu'il y a, bon, il y en a qui. Le principal problème en accessibilité, si vous venez à la conférence à 14h30 que je donne avec Emeric de Framasoft pour rendre Framadata accessible, donc là c'est plus technique. Vous allez voir que finalement la difficulté elle n'est pas technique. On peut faire des choses accessibles de manière très simple. Le problème c'est de se former et de vouloir le faire. C'est un problème de voilà, c'est les deux choses. Savoir que ça existe, donc il y a un problème de communication. Il faut savoir que l'État a décidé de communiquer. Dans ce marché-là, il y a une partie communication avec une agence de communication qui va informer, communiquer sur ce RG2A3. Et donc normalement, les administrations devraient être plus au courant. Donc ça va être peut-être pris en compte plus sérieusement. Mais effectivement, les règles, elles sont là, c'est un outil. Donc après, si on n'a pas compris à quoi ça sert de faire une alternative, elle sera soit mal rédigée, soit... Il n'y a pas de choses automatiques, il faut comprendre à quoi ça sert. Et encore une fois, le but, c'est de construire une société inclusive. Donc c'est une démarche, avant tout, c'est une démarche. J'anticipe sur la prochaine, mais sur Framasphère, donc, qui est un réseau social... dans le cadre du projet de dégoogliser Internet de Framasoft, il y a un CAPTCHA pour s'inscrire. Et donc, le problème de ça, c'est que souvent, on parle de choses qui existent. Et donc, c'est très compliqué dans le libre. Donc, la prochaine fois, on montrera que c'est parce que c'est compliqué qu'on ne doit rien faire. Donc, on peut travailler dessus, mais c'est vrai que rien n'est accessible aujourd'hui, globalement. Et donc, c'est un énorme travail. Mais il faut y aller, on peut y arriver et faire des choses très chouettes assez rapidement. Et donc là, la démarche était plus importante, faire un CAPTCHA audio, etc. Il faut travailler directement avec Diaspora, c'est pas simple, le bug est déjà remonté, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une adresse en disant, si vous avez des difficultés, écrivez-nous et on vous aidera. Et on se rend compte que finalement, les gens, on reçoit des mails, donc on les aide, on remplit le... Après, une fois à l'intérieur, ils peuvent se débrouiller. Le problème, c'est ce fameux CAPTCHA, quand on ne voit pas remplir une image déformée, ben, en fait, comme ce n'est pas décrit, évidemment, pour les raisons de sécurité, ils ne peuvent pas le faire. Ben, avec ça, on a créé plusieurs comptes comme ça, et on se rend compte que les gens qui nous demandent de l'aide ne sont pas forcément des personnes handicapées. Donc on voit là aussi que l'accessibilité, ça bénéficie, c'est une démarche avant tout, et qu'il y a toujours une solution. Si on est dans cette démarche d'inclure et de donner vraiment le service à tout le monde, il y a toujours des moyens de le faire.
Merci beaucoup, Mme Altinier. Sujet très intéressant qui aurait mérité une conférence plus longue, mais je vous invite à aller rencontrer Madame à son stand.
Oui, n'hésitez pas. Merci.